Chapitre 7 Au château de Kerguen. Je laisse pour la suite de ce récit la parole à Maximilien Heller. Il m'envoyait presque tous les jours le journal de sa vie et le récit de ses observations. J'ai conservé ces quelques lettres et je les publie par ordre de date et sans rien y changer, car elles me paraissent donner une juste idée du caractère de cet étrange philosophe. Chartres, 17 janvier. Nous sommes partis hier soir à 8 heures. Il faisait un temps affreux. L'orage grondait avec tant de fureur que je n'ai pu fermer l'œil de la nuit. M. Bréa Kerguen a loué le coupé de la diligence et m'y a fait asseoir à côté de lui. Il ne me quitte pas des yeux un seul instant. Hier, j'étais obligé d'employer la ruse pour mettre à la poste le mot que je vous ai écrit. Ce matin, mon maître, qui paraissait harassé de fatigue, s'est jeté sur un lit d'auberge et je vous écris à la hâte, craignant à chaque instant qu'il ne s'éveille. Ne me répondez pas avant le 25 de ce mois. Vous m'adresserez alors vos lettres chez le maître de poste de Lockhart, près de Loch Niven. Je trouverai toujours le moyen de le prévenir et de les retirer. Je désirerais savoir avant tout si le docteur Wickson est encore à Paris et si on parle de nouveaux vols aussi audacieux que ceux de Madame de Bruant a été la victime. À ce propos, quand vous verrez votre jolie cousine, dites-lui de calmer ses inquiétudes. Les 5 couverts d'argent qui lui ont été volés et les bagues, bracelets, montres de ses invités, etc., seront rendus à leur légitime propriétaire avant que... La lettre se terminait là brusquement. Sans doute M. Bréa Kerguen s'était réveillé à ce moment et Maximilien n'avait pu trouver le temps de terminer son épître. Je pris les renseignements que me demandait le philosophe. Le docteur Wickson n'était plus à Paris et on n'entendait plus parler de vol ni d'attaque nocturne. Kerguen, 22 février. Le château de Kerguen est situé sur la lisière d'un grand bois de sapins à 2 kilomètres du village de Lockhart. C'est une vieille construction menaçant ruine, avec des murs élevés, noircis par les siècles et percés de petites fenêtres dont les vitres de verre bleuâtre sont enchâssées dans le plomb. Cette demeure séculaire a quelque chose de fantastique et de sinistre. On dirait un tombeau s'élevant au milieu du feuillage sombre des sapins. Il y règne un silence de mort. Nous sommes arrivés dans la nuit par un chemin que les neiges avaient défoncé. Mon maître est descendu le premier et a frappé à plusieurs reprises à la grille avec force juron, les seuls mots que je lui ai entendus prononcer pendant tout notre voyage. Un paysan moitié endormi est venu nous ouvrir. C'est le jardinier, une sorte d'idiot qui ne comprend que 3 mots de français et qui semble avoir l'obéissance passive de la brute. Nous avons traversé le jardin, qui est grand, et nous sommes arrivés dans une petite cour mal pavée, au fond de laquelle se dresse sur quelques marches la porte d'entrée de cette sombre demeure. Au moment où M. Bréa Kerguen mettait le pied dans cette cour, un sourd grognement s'est fait entendre dans le coin le plus obscur. Mon maître s'est soudainement retourné. « Ah ah ! Jaco, tu es levé » a-t-il dit avec un gros rire. « C'est bien, mon garçon, tu reconnais les gens et tu leur fais bon accueil. Comment vas-tu, mon vieux camarade ?» En disant ces mots, il s'approcha du coin d'où était parti ce grondement de bête fauve. Je remarquai alors, dans l'obscurité, un gros grillage qui fermait cette partie de la cour, et derrière le grillage une masse brune qui s'agitait lourdement. J'entendis le bruit d'une porte en fer qui retombait, et en m'approchant de quelques pas, je vis que mon maître était entré dans cette sorte de cage et pressait tendrement dans ses bras un ours gigantesque. L'animal faisait entendre de petits grognements de plaisir. Cette scène touchante dura une minute environ. Grommela mon maître après avoir quitté son sauvage ami. Jaco est un bon garçon quand on le connaît, mais si un autre que moi lui rendait visite, il le dévorerait à belles dents. Ceci paraissait être à mon adresse, mais comme je n'avais nulle envie de rendre visite à Jaco, je ne m'effrayais pas de la menace. Monsieur Briac-Kergen monta les marches du perron et congédia le jardinier qui demeurait dans une petite masure située près de la grille du jardin. Il introduisit une grosse clé dans la serrure, la porte roula sur ses gonds en grinçant et se referma avec un bruit qui ébranla les vieilles murailles. Le châtelain battit le briquet et alluma une lanterne qu'il détacha du mur. Nous trouvions dans un long corridor au bout duquel on apercevait les marches d'un grand escalier de pierre. « Suivez-moi !» me dit M. Breaker-Gen d'un ton rude. Nous montâmes deux étages. Les appartements de cet antique château me paraissent être bizarrement distribués. De chaque côté du palier s'étendent deux étroits couloirs sur lesquels s'ouvrent régulièrement, de distance en distance, les portes des chambres. On dirait un ancien couvent, avec ses corridors sombres et ses cellules. « Voici votre chambre, » me dit M. Breaker-Gen en poussant une de ses petites portes basses et en m'introduisant dans une pièce humide et mal meublée. « Vous trouverez du bois dans ce coin. » Il dirigea le rayon de sa lanterne sur mon visage et ses petits yeux gris m'examinèrent avec attention. « Vous êtes à bon service, » me dit-il en appuyant sur tous les mots. « Vous devez vous tenir prêt à m'obéir à chaque instant du jour et de la nuit. Votre travail, d'ailleurs, n'aura rien de fatigant, mais je vous défends expressément de mettre les pieds hors des murs du jardin. Je m'attribue sur votre personne un droit sans limite et si vous violez ma défense, je vous punirai de mes propres mains. Du reste, si vous m'haïssez en tout et si je suis content de vous, vous aurez une récompense telle que personne, soyez-en sûr, ne pourrait vous en donner une semblable. » Tandis qu'il prononçait ces derniers mots, son regard me parut encore plus clair et plus perçant. Puis il me tourna brusquement le dos et sortit. Kergen, mercredi soir. Outre le jardinier dont je vous ai parlé et qui est décidément en enfance, M. Breaker-Gen a pour le servir une vieille femme de charge qui n'entend pas un mot de français. Mon maître mange énormément et boit encore plus. Son vin est d'ailleurs excellent. Après son repas qu'il a pris à midi, il s'est enfermé dans ses appartements au premier. Pendant ce temps, j'ai été me promener dans le jardin qui est fort bien planté et tapissé de superbes espaliers. En traversant la petite cour, j'ai aperçu Maître Jaco étendu tout son long dans sa cage et se chauffant au pâle soleil de janvier. C'est un ours noir magnifique et qui paraît doué d'instincts très féroces. Il tenait entre ses grosses pattes un quartier de viande saignante et le mangeait avec une gloutonnerie qui pouvait donner à réfléchir. En me voyant passer, il a relevé sa lourde tête et a poussé un sourd grognement. Je me suis promené une heure environ dans le jardin, cherchant en vain dans mon esprit par quel moyen je pourrais vous faire parvenir les lettres que je veux vous adresser chaque jour. Cette promenade au grand air m'a fait du bien. Ma tête était en feu et la bise du nord, qui soufflait avec violence, me rafraîchissait. Quand je serai revenu à Paris, je me mettrai aux douches d'eau froide. J'ai profité de cette heure de promenade pour inspecter soigneusement les dispositions de ce sombre château. La maison a 8 fenêtres de façade. Je n'ai pas eu de peine à reconnaître la fenêtre de ma chambre, car pour faciliter mes recherches, j'avais eu soin de la laisser ouverte. Elle est la 3e en commençant par la droite. D'après ce que j'ai pu tirer du vieux jardinier, j'ai cru comprendre que l'appartement du châtelain était au-dessous de la pièce qui m'est attribuée. Devant cette façade se dresse un beau sapin de Norvège dont la flèche élevée atteint la fenêtre ogivale de ma chambre. J'ai fait le tour de la maison, mais du côté sud, tous les volets sont fermés. Ces appartements m'ont, paraît-il, jamais été occupés. J'allais rentrer dans le manoir lorsque mes yeux furent attirés par un objet brillant qui montait lentement le long du mur du verger. Vous saurez que j'ai la vue extrêmement perçante. Je m'approchais doucement en longeant les espaliers afin de découvrir ce nouveau mystère. À cet endroit du jardin est un beau vivier aux Olympides dont un des bords touche au mur, lequel à cet endroit est un peu dégradé. Je restais environ 5 minutes en observation. Tout à coup, les eaux du vivier furent violemment agitées, des cercles ondoyants coururent les uns après les autres, et je vis une superbe truite qui, sortant de ce volément, montait le long du mur avec force soubresauts qui faisaient reluire ses écailles. Ne croyez pas que je vous conte une histoire fantastique. Je ne tardais pas à avoir l'explication du phénomène. La truite était suspendu au-dessus du vivier par une mince ficelle, et en suivant des yeux la cordelette, j'aperçus, sur la crête du mur, deux petites mains grêles qui tiraient ligne et poisson. Je m'avançai à pas de loup, et me hissant sur la pointe du pied, je saisis les mains du pêcheur inconnu entre les miennes. Un léger cri de frayeur retentit de l'autre côté du mur, et aussitôt, je vis apparaître entre les pierres couvertes de bousse la figure effarée et barbouillée d'un enfant de 12 ans aux cheveux blonds cendrés. « Oh, ne me faites pas de mal, monsieur, me dit le bambin en mauvais français et d'une voix suppliante. Je vous promets que je recommencerai plus. »
« Ah, petit maraudeur, je vous y prends. Que dirait monsieur Bréhat, Kergen, s'il savait de quelle manière vous pêchez ces truites ?»
Mais comme je désirais me faire un allié du petit homme, qui avait l'air fort intelligent, je ne pris pas un air terrible d'une voix rude, non. Et celui-ci, avec cette perspicacité que les enfants possèdent à un si rare degré, s'aperçut vite que je n'étais pas un ogre prêt à le dévorer. Aussi, l'expression de terreur de son visage disparut tout à coup pour faire place au plus naïf étonnement. Il me regarda pendant quelques secondes, puis me dit brusquement « C'est la première fois que vous venez au pays ?»«
Oui. »«
Ah, vous êtes ami de M. Bréhat-Kergen ?»«
Pas précisément. »
Mais qui êtes-vous donc? Tâche de le deviner. J'avais lâché ses deux mains. Il s'était baissé de quelques centimètres, avait posé ses joues roses sur ses poings fermés et me regardait des pieds à la tête avec ses grands yeux bleus surpris.
Qui vous êtes? Mais oui, j'en sais rien. Vous venez de Paris avec lui?
Oui.
Ah! « Vous êtes parisien, alors ?»
Ses regards redoublèrent d'attention. Il semblait chercher dans sa cervelle l'explication de ce mystère qui l'intriguait au plus haut point. « Écoute, lui dis-je d'un ton sérieux, tu me parais un brave garçon. Je vais te dire qui je suis. M. Kergel m'a pris à son service à Paris comme valet de chambre et m'a amené avec lui. Tu sais que le maître a des idées un peu singulières. »
« Oh, je crois bien !» fit-il de sa voix moqueuse en éclatant de rire.
« Eh bien, figure-toi qu'il m'a défendu de sortir du jardin.
Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est une lubie qui lui a pris. Or, j'ai besoin d'aller au village. Veux-tu faire ma commission ?»
Je lui glissai dans la main une petite pièce d'argent, ce qui lui fit écarquiller les yeux.
« Foi de Jean-Marie, me dit-il d'un ton convaincu, oh, demandez-moi tout ce que vous voudrez, je le ferai.
Tiens, tu vois bien cette lettre. Il faudra que tu la mettes à la poste du bourg sans que personne ne te voie. » Sa pantomime exprima encore l'étonnement le plus grand. Il trouvait sans doute le service que je lui demandais peu en proportion avec la récompense princière qu'il avait reçue d'avance. Ah, ce n'est pas tout. Il faut me promettre de ne parler à personne au village de ma présence ici. Il fit de la tête un signe énergique d'assentiment. Il faut encore me promettre de revenir tous les jours à cette même place prendre mes commissions. Oh, pour cela, me dit-il avec son air malin, craignez rien, je suis exact. Si je suis content de toi, je te laisserai pêcher sans te dénoncer les truites du bonhomme. Et de plus, je te donnerai toutes les semaines une pièce d'argent comme celle-ci. Mais si tu me trahis, prends garde, je dirai tout au maître. Il sourit avec un petit air triomphant. Foi, oh, je ne vous trahirai point et vous pouvez compter sur moi. Pourtant, ajouta-t-il après un instant de réflexion, je ne vous promets pas de venir moi-même tous les jours. Ma mère m'envoie quelquefois garder notre vache sur la colline là-bas, et c'est trop loin pour que je quitte le pré. D'autant plus que Noiraud est fine. Alors, si elle me savait ici, elle irait manger les choux du père Legoalou, comme elle a déjà fait une fois. Mais ces jours-là, je vous enverrai à ma place la petite Rose, ma sœur jumelle. Elle fera bien vos commissions, craignez rien, et sans en rien dire à personne. Nous nous ressemblons comme deux pains sur la planche. Vous la reconnaîtrez aisément. Je lui donnai ma lettre, celle qui est datée du 22. Il la serra dans sa ceinture, puis enveloppa dans un grand mouchoir tapissé d'herbes blanches les fruits qu'il avait pêchées. « Oh, oh !» murmurait-il en contemplant son butin. « Oh, le vieux Ruc aura une bonne part aujourd'hui !»« Qui est le vieux Ruc ?»« Oh, c'est notre voisin. Il est vieux et malade. Quand la pêche va bien, nous partageons et nous lui donnons la moitié. » J'admirais la candeur du bambin qui regardait le tribut journalier qu'il prélevait sur le vivier du châtelain comme un bien très légitimement acquis. « Mais, ajouta-t-il en secouant sa jolie tête blonde, l'hiver, voyez-vous, il n'y a rien à faire. Rien, rien que la pêche, toujours du poisson. Ah, en été, c'est différent. Il y a les fruits. Tenez, vous voyez dans ce coin là-bas, ce gros arbre tordu contre le mur? C'est un espalier de poires. Oh, mais des poires! » Ses joues s'enflaient et ses yeux brillaient de plaisir tandis qu'il prononçait ces mots. Et comment fais-tu pour les attraper? Avec une gaule pointue, donc. Je les fais tomber à terre et puis je les pique. Ah, tu ne descends jamais dans le jardin? Oh, que nenni, par exemple. Le jour, il y a le vieux jardinier qui me déteste et qui a dit que s'il me prenait, il m'arracherait les oreilles. Et la nuit, il y a Jaco. La voix de l'enfant tremblait un peu en achevant ses dernières paroles. « Ah oui, l'ours, il est donc bien méchant ?»« Oh, s'il est méchant, Jésus m'a doué !» s'exclama Jean-Marie. « On le lâche toutes les nuits lorsque le maître est là et il rôde dans le jardin en grognant, en grognant. On l'entend quelquefois du village. Une nuit, le chien du vieux Ruc a sauté dans le jardin pour courir sur lui. Et le chien du vieux Ruc était gros comme un veau. Eh bien, Jaco l'a attendu et l'a dévoré. Il me dévorerait encore bien plus, moi. Et il y a longtemps que M. Kergen a ce vilain animal? Hein? S'il y a longtemps? Je crois bien. Jaco est vieux maintenant. Ma mère m'a bien souvent conté l'histoire. Il y a 10 ans, au pardon de Locard, il est venu un grand et gros homme qui conduisait Jaco et lui faisait faire des tours sur la place. Il paraît que le maître a vu cet homme. Il a voulu acheter son ours, vous comprenez. Il l'a fait venir au château avec Jaco, et le soir, l'homme s'en allait par le village, sans sa bête, montrant à tout le monde les pièces d'or qu'il avait reçues du maître. Il disait partout qu'il était bien content de s'être débarrassé de Jaco, parce qu'il lui coûtait trop cher à nourrir, et qu'avec cet argent, il aurait de quoi vivre dans ses vieux jours.
Mais il paraît que l'ours n'était pas si féroce dans les premiers temps. C'est le maître qui l'a rendu méchant exprès. Il le bat et ne lui donne pas assez à manger. Mais pourtant, Jaco a l'air d'aimer, monsieur Kergen. Oh, pas de danger qu'il touche au maître, ni au vieux jardinier non plus. Ils ont un secret pour cela. Ils le prennent, je ne sais comment, par la peau du cou, près de l'oreille, comme ça, tenez. L'enfant interrompit soudain son discours, mit prestement ses poissons sous son bras et disparut derrière le mur. Cette fuite précipitée avait été occasionnée par la vue du vieux jardinier qui s'avançait au bout d'une allée. Je me mis à regarder d'un œil indifférent les poissons qui jouaient dans les eaux du vivier, et le vieil idiot passa près de moi sans avoir le moindre soupçon. J'étais soulagé d'un grand poids et d'une grande inquiétude, et je songeais avec plaisir que désormais je pourrais correspondre au dehors à l'insu de mon maître. Chapitre 8. La somnambule. Kergen, jeudi. Je ne sais si j'aurai la force d'achever cette lettre. Je suis épuisé. La fièvre me dévore. Mais malgré cette faiblesse extrême, les événements que j'ai à vous raconter sont trop importants pour que je tarde à vous en envoyer le récit. Ce n'est pas seulement le désir de contenter votre curiosité qui me fait vous écrire. Ces lettres sont destinées à servir de pièces d'accusation si je viens à mourir à la table. Si, s'il arrive que 3 jours s'écoulent sans que vous receviez de mes nouvelles, portez immédiatement mes lettres au juge d'instruction en lui révélant tout ce que vous savez déjà et tout ce que vous pouvez avoir deviné. Mais j'ai hâte d'aborder le récit des événements de la nuit dernière. Excusez le décousu de ma lettre, la plume me tremble entre les doigts, c'est à peine si je puis joindre 2 idées. Ma tête est en feu et je suis obligé de prendre un instant de repos après avoir écrit chaque phrase. J'étais déjà bien souffrant hier soir. La fièvre me brûlait cruellement, je ne pouvais poser ma tête sur l'oreiller sans ressentir des douleurs intolérables. Donc je me levai et j'ouvris ma fenêtre. Un vent glacé vint me frapper au front, j'en éprouvai un grand soulagement. Je m'accoudai à l'appui de la croisée et tombai dans une demi-somnolence pendant laquelle j'eus un affreux cauchemar. Il me semblait qu'on me broyait la tête à coups de marteau. Combien dura cet état? Je n'en sais rien. Je fus tiré de cette pénible rêverie par un bruit étrange qui semblait venir d'une des chambres placées à l'angle gauche de la maison. La fièvre donnait sans doute à mon ouïe une acuité merveilleuse. J'entendais comme un murmure. C'étaient 2 voix qui se parlaient avec animation, mais l'une d'elles me paraissait plus forte et dominait dans le silence de la nuit. J'ouvris ma porte avec précaution et je fis quelques pas dans le corridor. Je ne m'étais pas trompé. La chambre qui faisait l'angle de la maison à droite était habitée. On voyait un mince filet de lumière sous le seuil de la porte. Je m'avançai sur la pointe des pieds, espérant saisir quelques mots de cette conversation nocturne. Je collai mon œil contre le trou de la serrure, mais la clé était en dedans et je ne pus distinguer les 2 interlocuteurs. Un silence s'était fait. Il fut rompu au bout de quelques secondes par une voix que je reconnus pour celle de M. Bréad Kergen. « Je te répète, disait-il rapidement et d'un ton ferme, je te répète que tu ne peux pas rester ici. » « Pour quelle raison? Mais cela ne te regarde pas, et je ne te dirai point. Mais il faut absolument que tu partes la nuit prochaine. Je te louerai un garni à Rennes, et tu iras m'y attendre. Ensuite, nous fuirons ensemble en Angleterre. »« Mais tu veux donc me faire mourir ?» dit en sanglotant une voix qui, à ma grande surprise, était celle d'une femme. « Malade comme je suis, je ne pourrai jamais faire le voyage. »
Malade ou non, il faut que tu t'en ailles, entends-tu? Répondit l'autre avec dureté. Il le faut. Tu sais que je ne plaisante pas et que quand je veux une chose, elle doit se faire.
Attends seulement 8 jours. Dans 8 jours, je serai peut-être morte et tu seras débarrassée de moi, ou bien je serai guérie. Je pourrai t'accompagner.
Parbleu, si je pouvais attendre 8 jours, je ne te forcerais pas à partir demain. Mais dans 8 jours, il faut que nous soyons loin. On m'a déniché à Paris. J'y ai fait quelques coups qui ont mis la puce à l'oreille des limiers de la police. Je ne me soucie pas d'être pincé. Le temps de recueillir le magot et je file. Toi, tu ne peux pas rester ici, entends-tu? Je n'ai pas besoin de te dire pourquoi, mais tu ne le peux pas. Il faut que tu te caches et vite, ou sinon, tu sais ce qui t'arrivera, car ton affaire n'est pas meilleure que la mienne.
Oh, tu essaies de me faire peur. Comment veux-tu que la police te découvre ici? Tu m'as dit toi-même qu'elle en a pris un autre à ta place.
Oui, mais l'erreur de la justice ne durera peut-être pas longtemps. Je crains d'avoir un fin limier à mes trousses et mon système à moi est de filer à la première alerte. Voici mon dernier mot. Allez, pars demain dans la nuit et laisse-moi te conduire. Te conduire à Rennes ou bien tu sais que je n'hésiterai pas à me défaire de toi si tu refuses de m'obéir.
Oh, misérable, tu oserais me tuer après ce que j'ai fait pour toi?
Pour moi, oh. Crois-tu que je t'en ai quelque reconnaissance? Il me semble que tu as bien profité de tout, et sans risquer grand-chose encore, tandis que moi...
Il se fit un silence, pendant lequel j'entendais M. Bréa Guerguen marcher dans la chambre d'un pas agité. Il s'arrêta tout à coup.
« Eh bien, es-tu décidé ?»«
Oh, tiens, oh, je suis fatigué de t'obéir toujours comme cela, mais tue-moi, oh, je souffre, je ne puis faire un pas. Comment veux-tu que je te suive? Tue-moi, j'aime mieux cela. Aussi bien tu seras pris un jour ou l'autre, et j'aime mieux mourir ici que sur la guillotine. »«
Je serai pris, » répondit l'autre d'une voix ironique. « J'ai encore de bonnes dents pour ranger les mailles du filet. Oui, je serai pris peut-être, si tu restes ici, et tu le seras avec moi. Mais si tu m'obéis, dans 8 jours, le temps de recueillir la plus grosse partie de l'héritage, je vais te chercher à Rennes et nous décampons en Angleterre. Le diable sera bien fin s'il peut nous y découvrir. »
Je jugeais que l'entretien allait toucher à sa fin. Je regagnai ma chambre avec précaution et me mis au lit après avoir eu soin de m'envelopper la tête d'un gros foulard. En effet, 5 minutes après, j'entendis dans le corridor le pas lourd de M. Bréa Guerguen. Il ouvrit doucement la porte de ma chambre et dirigea sur mon visage le rayon de sa lanterne sourde. Puis il se retira sans faire le moindre bruit. J'attendis quelques minutes afin d'être sûr qu'il était rentré dans son appartement et qu'il ne reviendrait pas. Alors, je me levai, bien qu'en ce moment ma fièvre redoublât et que mes souffrances fussent atroces. J'entrevoyais enfin le dénouement de cette ténébreuse histoire, et, si près de toucher au port, je fis des efforts inouïs pour ne pas succomber. Je m'avançai dans le corridor en me soutenant au mur, courbé en deux comme un vieillard. Mes membres grelottaient de froid et ma tête brûlait comme un brasier ardent. Enfin, j'arrivai à cette porte et je frappai 2 coups sur les ais solides. Je n'obtins aucune réponse. En collant mon oreille contre le trou de la serrure, il me sembla entendre dans l'intérieur de la chambre une respiration sifflante et saccadée. Je frappai de nouveau. Un profond soupir se fit entendre, mais ce fut tout. Cependant, je sentais mes forces m'abandonner. Je crispais mes doigts contre les moulures de la porte pour m'empêcher de tomber. Il me semblait, dans l'hallucination de la fièvre, que les pas de l'assassin
retentissait dans les sombres corridors et qu'il allait me surprendre en lui dérobant son secret. Ce secret, il était là, dans cette pièce où je ne pouvais pénétrer. Ce seuil, une fois franchi, je ferais avouer sa complice et je connaîtrais enfin le mystère tout entier. Peut-être, me disais-je en rassemblant mes forces dans un suprême effort, pourrais-je enfin tomber cette porte qui se dresse devant moi comme un obstacle infranchissable. Mais le bruit attirerait l'assassin, et je succomberais au moment de toucher au but de ma pénible entreprise. Je sentais le délire de la folie envahir mon cerveau, mes idées s'égaraient, une sueur froide inondait mon front. Oh, l'horrible moment! Si je survis à tant de souffrances, jamais je n'oublierai cette heure d'angoisse. Une idée fixe s'était emparée de moi, entrer dans cette chambre. Mais par quel moyen? Je m'appuyai contre le chambranle de la porte, et ma tête dans mes deux mains, je m'efforçai de réunir mes idées. Ces quelques instants de réflexion me rendirent un peu de calme. Je retournai doucement dans ma chambre, j'y pris une lumière et un couteau de poche qui pouvait me servir à ouvrir la porte de la mystérieuse complice de l'assassin. Puis je m'engageai de nouveau dans le corridor et m'arrêtai devant cette porte. Je m'aperçus bien vite que la serrure était fermée à double tour, impossible de l'ouvrir. Je n'avais même pas la ressource d'enlever les vis qui la retenaient à la lourde porte en chêne. Elle était vissée à l'intérieur. Un douloureux découragement s'empara de moi. M'appuyant d'une main contre le mur humide du couloir, je regagnai lentement, le front penché vers le sol, ma chambre dans laquelle je m'enfermais. Je me jetai ensuite, tout habillé, sur mon lit. Mais l'état de surexcitation où se trouvait mon esprit m'empêchait de goûter le repos qui m'eût été si nécessaire. Ma pensée ne pouvait se détacher de cette chambre, placée à quelques mètres de la mienne, où gisait, mourante sans doute, celle qui possédait les redoutables secrets que je brûlais de connaître. Les paroles échangées entre cette femme inconnue et Brea Kergen étaient profondément gravées dans ma mémoire. Je les repassais lentement en méditant chaque mot. Mais elles étaient malheureusement trop incomplètes pour me fournir le sens que je cherchais. Toutefois, cette conversation de quelques instants m'avait laissé une certitude. Brea Kergen était un profond scélérat dont ce récent fratricide n'était sans doute pas le premier coup d'essai. De plus, il avait une complice dont il voulait se débarrasser à tout prix. Ici, une terrible pensée traversa mon esprit. Il a insisté, me dis-je, pour qu'elle quittât le château sur le champ. La malheureuse a refusé. Reculera-t-il devant un crime pour acheter à jamais son silence? Nul ne soupçonne apparemment son existence. L'assassin est assuré de l'impunité. Mais grand Dieu, il va peut-être la tuer cette nuit. Il va la tuer cette nuit. Ah, concevez-vous quelles angoisses s'emparèrent de moi à cette idée? Dans quelques heures, dans quelques instants peut-être, cet unique et précieux témoignage sera éteint dans le sang. 3 heures s'écoulèrent. Malgré tous mes efforts, et bien que j'eusse absorbé une dose considérable d'opium, le sommeil n'était pas encore venu clore ma paupière. Je restais étendu sur mon lit, qui me semblait de feu, et cependant les frissons de la fièvre qui parcourait mon corps me faisaient grelotter. J'avais les yeux grands ouverts. Je tournais lentement la tête vers une grosse montre en argent suspendue au chevet de mon lit. Elle marquait 2 heures précises du matin. Tout à coup, était-ce une hallucination? Il me sembla entendre dans le long corridor un frôlement léger. Je pensais, oh, c'est sans doute quelque chauve-souris nocturne qui bat les murs du bout de ses ailes. Mais non! Le bruit persistait. Cela ressemblait à un pas humain. Je me levai péniblement, je m'approchai de la porte de ma chambre, et, retenant mon souffle, je prêtai l'oreille. On marchait, en effet, dans le corridor. Le pas étouffé et extrêmement lent du promeneur nocturne s'approcha peu à peu. Je l'entendis distinctement devant ma porte, puis il s'éloigna. Ce bruit, à peine perceptible, avait un rythme et une régularité qui me frappèrent. Bréa Kergen ne marche pas de cette façon. Son pas est inégal. Je vous ai déjà dit qu'il traîne un peu la jambe gauche. Mais si ce n'était pas le maître du logis qui se promenait à une pareille heure de la nuit, qui pouvait-ce être? Dominé par l'ardente curiosité qui s'était emparée de moi, et sans songer au danger que mon imprudence pouvait me faire courir, j'ouvris doucement ma porte et entrai dans le corridor. À droite, du côté où se trouvait cette chambre mystérieuse dans laquelle j'avais inutilement cherché à pénétrer quelques heures avant, tout était sombre et silencieux. Je me tournai alors vers la gauche, et voici ce que je vis. Au bout du corridor étroit, une grande ombre noire se détachait sur un fond lumineux. Cette ombre avançait lentement, droite et raide comme un spectre. À tout prix, il me fallait éclaircir ce singulier mystère. Depuis le jour où je suis entré au service de M. Bréa Kergen, je porte toujours sur moi, par mesure de précaution, une paire de pistolets de poche. J'armais ces pistolets, et je m'avançais, en étouffant le bruit de mes pas, vers l'ombre qui s'éloignait. Je marchais assez vite. Je ne fus bientôt plus qu'à quelques mètres de l'apparition. Alors je réglais mon pas sur le sien, redoublant de précaution afin qu'elle ne soupçonnât pas ma présence. Je ne puis vous exprimer de quelle émotion j'étais saisi au début de cette singulière aventure. Cette ombre, ce spectre errant ainsi dans les sombres corridors de ce vieux château, asile d'un meurtrier, avait je ne sais quel aspect fantastique et surnaturel. N'était-ce pas une de ces victimes qui revenait, terrible et implacable comme le remords, s'asseoir au chevet de l'assassin et torturer son sommeil? L'ombre avançait toujours de son pas lent et cadencé. Elle était parvenue à l'extrémité du long corridor. J'aperçus alors, grâce à la lueur qu'elle projetait devant elle, les premières marches d'un petit escalier de pierre qui semblait s'enfoncer dans l'épaisse muraille. Je fis quelques pas pour me rapprocher d'elle afin de voir la direction qu'elle allait suivre. En ce moment, un funeste hasard voulut que mon pied heurta contre un des barreaux du corridor, descellé par l'action du temps. « Oh, je suis perdu !» pensai-je avec effroi. En effet, à ce bruit, le promeneur nocturne s'était brusquement retourné. La lumière qu'il tenait en main m'éclairait des pieds à la tête. Je m'arrêtai moi-même, les deux mains posées sur les crosses de mes pistolets, décidé à vendre chèrement ma vie, si, comme je le pensais, ce personnage inconnu était un des complices de l'assassin. Mais quelle ne fut pas ma surprise! L'ombre restait immobile, silencieuse devant moi. Elle semblait ne pas s'apercevoir de ma présence. Je fis quelques pas en avant et m'approchai d'elle. Je m'aperçus alors que cet être à demi fantastique était une femme de haute stature, aux traits durs et accusés. Elle était coiffée d'un madras de couleur, de longues boucles grisonnantes tombaient sur ses épaules, un grand châle grisâtre l'enveloppait entièrement. Son teint était livide comme celui d'une morte, ses yeux grands ouverts invariablement fixés vers le plafond n'avaient ni mouvement ni expression, sa bouche serrée dessinait un effrayant sourire. Me reculai épouvanté. Je n'en pouvais plus douter. C'était elle. C'était la mourante
qui 3 heures auparavant tenait avec Bréa Guerguen cette mystérieuse conversation dont j'avais pu saisir quelques mots. C'était la complice de ces crimes, celle qui possédait tous ces secrets. Je me précipitai vers elle, décidé à l'effrayer par mes menaces, à lui arracher de gré ou de force ces vérités dont elle gardait dans son sein le redoutable dépôt. Je crus qu'elle restait ainsi immobile et glacée, parce que la terreur paralysait ses forces, qu'il me serait facile enfin de profiter de ce dernier effroi que ma vue lui inspirait pour lui faire avouer ses crimes et ceux de son complice. Mais lorsque mon visage fut près du sien, lorsque j'aperçus la fixité de ses yeux, la pâleur livide de ses lèvres crispées, la sueur moite qui couvrait ses tempes, lorsque je vis cette poitrine décharnée que le souffle de la vie ne semblait plus animer, la vérité m'apparut dans tout son jour. La malheureuse était en proie à un accès de somnambulisme. Elle tenait à deux mains une petite lampe contre sa poitrine. Soudain, une de ses mains s'abaissa par un mouvement brusque, automatique pour ainsi dire, et vint saisir mon poignet qui fut serré comme dans un étau d'acier. Elle ne me regardait pas pourtant, ses yeux étaient toujours levés. Mais comment avait-elle pu m'apercevoir? En même temps, ses lèvres se desserrèrent et il en sortit un souffle léger. Je crus qu'elle allait parler, j'approchai mon oreille de ses lèvres, mais elle referma la bouche, se retourna tout à coup et, sans retirer sa main qui étreignait la mienne, reprit sa marche lente, un instant interrompue. Je fis appel à tout mon courage et je la suivis résolument, sans essayer de dégager mon bras, auquel cette horrible étreinte causait pourtant de vives douleurs. Elle s'avança alors vers l'escalier étroit dont, quelques instants auparavant, j'avais aperçu les premières marches. Nous le descendîmes. Je comptais 25 degrés jusqu'à ce que nous fûmes arrivés à un palier sur lequel mon étrange compagne s'arrêta. Elle se tourna alors de nouveau vers moi et murmura des sons inintelligibles et incohérents. Je jugeai que nous étions parvenus au premier étage du château. Devant nous s'étendait un long couloir dont l'extrémité se perdait dans l'obscurité de la nuit. Alors, la somnambule lâcha mon bras, posa un doigt sur ses lèvres, comme si elle eût voulu me recommander le silence, et prit les devants. Je la suivis encore. Mon cœur battait à rompre ma poitrine. Mais où voulait-elle me conduire ainsi? Je savais que l'appartement de Bréa Guerguen était situé à ce même étage, que la porte de sa chambre s'ouvrait sur ce même corridor, et s'il allait entendre le bruit de nos pas. Si, sortant brusquement de chez lui, il allait me voir à côté de cette femme qui possédait le secret de ses crimes. Rien ne cause de plus mortelles angoisses que l'appréhension d'un danger qu'on attend, qu'on pressent, qui peut à tout moment surgir sous vos pas. En cet instant, je ne respirais plus, je ne vivais plus. Tout l'effort de mon intelligence était concentré dans cette seule pensée. Mes yeux essayaient de percer les ténèbres épaisses. Mon oreille inquiète écoutait si, à travers le silence profond de la nuit, elle n'entendrait point quelque bruit venant de cette extrémité du corridor dont chaque pas nous rapprochait. Soudain, l'ombre que je suivais s'arrêta de nouveau. Elle se tourna vers moi et me fit signe de venir près d'elle. J'obéis. Alors elle posa son doigt décharné sur une porte en chêne qui se distinguait des autres par les sculptures naïves dont l'avait orné quelque artiste des anciens temps. Je ne comprenais pas ce que signifiait ce geste, ni pourquoi mon guide mystérieux s'était arrêté devant cette porte. Je savais que de ce côté du château, il y avait des appartements déserts, inhabités depuis fort longtemps, et qui servaient aux vieux jardiniers,
pour entre les fruits et les légumes d'hiver. Ma compagne parut s'apercevoir de mon hésitation. Elle murmura en posant encore son doigt sur la porte.
« C'est là. As-tu donc peur ? Va, il a le sommeil dur. »
Mais de qui parlait-elle dans son rêve ? Était-ce le maître du château qui habitait cette chambre ? Je lui demandai à voix basse, mais lentement et en articulant chaque parole, « Est-ce Bréa Kergen qui dort là ?»«
Oui, »
répondit-elle. Et je vis sur ses lèvres serrées ce même sourire effrayant que j'avais déjà remarqué tout à l'heure. Alors elle enfonça doucement dans la grande serrure de fer forgé une clé couverte de rouille, la tourna sans faire de bruit et poussa la porte qui s'ouvrit toute grande.
« Viens !» dit-elle.
J'entrai derrière elle. Elle referma la porte. La chambre dans laquelle mon singulier guide venait de m'introduire était une pièce de moyenne grandeur, très élevée. Les murs étaient couverts de tapisseries à personnages dont le temps et l'humidité avaient rongé les couleurs. L'aspect de cette chambre me frappa vivement. Évidemment, elle était habitée. Au fond, s'élevait un grand lit à colonnes et à baldaquins dont les rideaux étaient fermés. Près de ce lit, se trouvait un fauteuil à haut dossier sur lequel étaient négligemment jetés des vêtements d'homme. Un peu plus loin, contre la fenêtre à laquelle était suspendue une petite glace à barbe, un lavabo supportait une cuvette remplie d'eau de savon. Sur le guéridon du milieu étaient jetées une grosse casquette de loutre et un fouet de chasse. Au-dessus de la haute cheminée, où gisaient deux bûches noircies dans un épais tas de cendres, reposait un fusil à deux coups et à pierre. Enfin, sur une table de nuit placée près du lit, on voyait un chandelier de cuivre avec sa chandelle à demi consumée et, à côté, un journal déplié. Sans hésiter, la somnambule se dirigea vers ce lit, sa lampe à la main. Je me reculai instinctivement et me tins dans l'ombre. Une indicible angoisse s'était emparée de moi. Je tremblais d'émotion. Et pourquoi ne le dirais-je pas? J'avais peur. Oui, à la pensée que cet homme, qui devait avoir le sommeil léger des assassins, allait se réveiller tout à coup, se trouver en face de cette malheureuse. À la pensée de la terrible scène qui peut-être allait se passer sous mes yeux, je me sentis envahi par une poignante terreur. Cependant, je résolus de demeurer. La curiosité l'emportait encore sur l'émotion, et je voulais assister, témoin invisible, à cette entrevue nocturne des deux criminels. J'espérais entendre enfin de leur bouche ces redoutables révélations qui devaient servir de dénouement à mes dangereuses aventures. Elle s'approcha du lit et tira lentement les rideaux dont les anneaux grincèrent sur les tringles rouillées, puis elle se pencha vers l'oreiller et sembla écouter. Entraînée par un mouvement de curiosité irréfléchie, j'avançai la tête de ce côté. Oh, surprise, le lit était vide. Les draps et les couvertures étaient roulés en désordre, l'oreiller était jeté contre le mur. Je vins me mettre à côté de ma mystérieuse compagne, qui demeurait toujours immobile, penchée sur le dormeur imaginaire. Je remarquai alors avec étonnement que les draps du lit étaient criblés de trous et de déchirures. On eût dit que pendant un grand nombre d'années, ils avaient servi de pâture à des légions de souris. La femme se releva lentement et, se penchant à mon oreille,
« Il dort bien, » murmura-t-elle. « Le breuvage que nous lui avons fait prendre était bon. »
Puis elle me saisit brusquement la main et me montrant le dessous du lit qui était très élevé.
« Cache-toi là, me dit-elle, et attends-nous.
La vérité, la terrible vérité commençait à m'apparaître. Je fis ce qu'elle m'ordonnait. Je m'étendis à côté du lit. Alors elle reprit la lampe qu'elle avait posée sur la table de nuit, la cacha sous le châle qui l'enveloppait et se retira dans un des coins obscurs de la chambre. Quelques instants après, je vins la rejoindre et je lui dis « C'est fait !»«
Déjà ?» répliqua-t-elle en poussant un grand soupir.
Elle s'approcha encore une fois du lit, passa sa main amaigrie sur les couvertures et, la posant à une place qu'elle croyait être sans doute la poitrine du dormeur, elle attendit, anxieuse, immobile.
« Oui !» dit-elle enfin d'une voix caverneuse. « Il est bien mort. C'est terrible. Mais cela vaut mieux qu'un coup de couteau. Cela, n'est-ce pas, de traces, n'est-ce pas ?»
Ces mots sortirent de sa bouche, entrecoupés, haletants. La malheureuse semblait oppressée par un poids énorme. Un frisson agitait tout son corps. Enfin, elle me dit encore, en serrant mon bras entre ses deux mains de fer,
« Maintenant, il faut le faire disparaître. Tu prendras sa place, et je serai ta femme. Je serai riche. »
Mes yeux tombèrent en ce moment sur le journal qui gisait déplié sur la table de nuit. Je me dégageai doucement de l'étreinte de cette femme et j'approchai le journal de la lampe. Il portait la date du 25 janvier 1836. Nous étions au 25 janvier 1846. Je compris tout. Cette scène mystérieuse dans laquelle je venais de remplir un rôle était sans doute la répétition du drame qui s'était joué 10 ans auparavant, jour pour jour, dans cette même chambre, auprès de ce même lit. Depuis 10 ans, M. Breac Ergen était mort, tué par un audacieux bandit qui avait osé prendre son nom, sa fortune et jusqu'au trait de son visage. Cette femme avait été la complice du crime et elle était devenue l'épouse de l'assassin. Vous souvenez-vous que, lors de l'autopsie du malheureux banquier de la rue Cassette, l'intendant M. Prosper nous a dit que M. Breac Ergen avait épousé sa servante? J'ai su depuis que cette femme se nommait Yvonne.